est le père Sestac ?
La vie du père Louis-Édouard Sestac, 1801-1868, un récit de sœur Fanny Marticorena, raconté par sœur Rolande Iribarin.
Les pensionnaires devenaient plus nombreuses. L'abbé Sestac décida de recourir à Notre-Dame, puisque les hommes ne pouvaient l'aider. Le 19 juillet 1838, il partait vers le sanctuaire de Buglose et après une halte à Saint-Vincent-de-Paul pour implorer l'intercession de l'apôtre des pauvres, il s'agenouillait devant la Vierge landaise pour lui demander la bagatelle de 50 000 francs. Mais il ne put exprimer sa requête. Marie lui fermait la bouche. « Ne me demande que mon esprit. » Le pèlerin revint joyeux. Il était aussi pauvre qu'à son départ. Mais il avait une assurance dans son cœur. La très sainte Vierge s'occuperait de tout. Elle exigeait seulement qu'il se laissât conduire. La forme de l'œuvre nouvelle se précisa lors d'une visite à une malade, Mademoiselle Moulia, vivant à la Villa Lachag, Anglette. Le propriétaire, instruit des soucis de l'abbé, lui fit visiter le domaine Châteauneuf, situé non loin de là et qui était à vendre. Un tableau de Sainte-Marie-Madeleine, suspendu au mur d'une des pièces de la maison, parut à l'abbé Sestac le signe providentiel de la volonté de Dieu. L'achat fut décidé. L'acte fut dressé par le notaire, maître Sobo d'Amborges, le samedi 24 novembre 1838. Les aménagements nécessaires terminés, 14 jeunes filles s'installaient le 8 juin 1839 dans le domaine désormais appelé Notre-Dame du Refuge. Mais qui dirigerait le travail dans ces landes condamnées à la stérilité, sous la menace constante des tempêtes d'eau et de sable? Le professeur de philosophie décida de se faire agronome. Les journaux avaient rendu célèbres les réussites économiques des moines de la Trappe de la Meilleraie, près de Nantes, où l'on voyait les landes et les brousses se transformaient en potagers, vergers, vignobles, pépinières, prés et champs labourés. Chassé de son monastère de Ludward, dont Antoine avait acheté l'ancienne abbaye cistercienne près de Nantes en 1817, riche de son expérience des méthodes de culture modernes répandues en Angleterre, le nouvel abbé avait importé en Bretagne le système d'assolement et acclimaté le trèfle et les prairies artificielles encore inconnues en France. Dans les annales d'agriculture, on vantait les instruments aratoires apportés par les moines. Charrues écossaises, rouleaux, grandes herses. Villeneuve de Bargemont avait apporté dernièrement au monastère le concours de sa haute compétence dans l'art agricole. L'abbé Sestac irait donc s'initier au nouveau système auprès des moines silencieux. Sa retraite à la Meilleraie en juillet 1839 lui fit découvrir tous les avantages du mode de vie qu'il avait entrevu pour la régénération de ses pensionnaires. Il serait trop long de rappeler toutes les étapes du développement du domaine agricole du refuge, comme il avait été à l'avant-garde des idées philosophiques à la ressort. L'abbé Sestac s'avérera un novateur, un administrateur moderne, contrôlant sans cesse la hardiesse de ses théories par une pratique intelligente et ingénieuse. En voyant le prêtre acheter du terrain, les paysans des alentours avaient ri. « L'abbé Sestac veut amuser les sables », disent-ils en hochant la tête. Bientôt, l'on dut s'incliner devant la maîtrise de l'agronome, le succès de ses essais. Les sables mouvants étaient stabilisés par les plantations de pins. Les terres se couvraient de légumes et de moissons. grâce à l'emploi des engrais. Les fruits pendaient aux arbres. Un magnifique bétail faisait l'admiration de tous et allait gagner bientôt les premiers prix au concours des comices. L'arrondissement de Bayonne, en effet, créait son comice en 1857 et l'abbé Sestac fut élu président à l'unanimité. Ce jour-là, le directeur du refuge montra aux agriculteurs le profit que l'on peut tirer de la rafle de maïs broyé pour l'alimentation des animaux. Notre-Dame du Refuge deviendra progressivement un établissement vivant en autarcie grâce à la pédagogie de l'abbé Sestac qui savait tenir compte des aptitudes de chacun pour les faire s'épanouir. Les femmes furent couturières, boulangères, cordonnières. Il y aura des spécialistes dans tous les domaines de la culture et de l'élevage. L'abbé Sestac rendit aussi l'espoir aux agriculteurs des alentours, prouvant que les sables n'étaient pas voués à la stérilité, et il fut pour un exemple et un conseiller très écouté. À cette population rurale qui souffrait de stagnation, voire de régression à mesure que le progrès de la machine dans les villes industrielles accroissait la séparation entre le paysan et le citadin, il montra que, par l'application tenace de son intelligence et de son travail, l'homme arrache peu à peu ses secrets à la nature. Il développa chez ses paysans le goût de la recherche et de l'invention, l'acceptation du risque calculé, l'audace dans l'entreprise, l'initiative généreuse, le sens des responsabilités. Grâce à l'habile président du comice de Bayonne, les esprits se trouvaient rapprochés, les cœurs soudés par un travail vécu en commun, dans l'espoir, la souffrance, l'ambition et la joie partagée. Peu à peu, les hommes se découvraient frères. Telle est la signification des expériences fameuses qui amenèrent l'abbé Sestac à acclimater des plantes exotiques dans nos régions, à répandre la culture du sorgho, la fabrication d'un engrais spécial adapté aux diverses sortes de terrains, l'utilisation des machines modernes, le choix des graines, la sélection des animaux. Tel est le sens des réunions et conférences auxquelles il tenait à participer pour une étude communautaire des problèmes et de féconds échanges de vues. Il faut lire les notices du temps pour se rendre compte de la réputation ainsi gagnée par le fondateur du refuge. De nombreux articles sur la question agricole paraîtront dans les journaux locaux et parisiens.
Bientôt, la suite de la vie du père Louis-Édouard Sestac, d'après un récit de sœur Fanny Marticorena, raconté par sœur Rolande Iribarin.